Alors, le passage qui va nous intéresser ce matin se trouve au chapitre 15 de l'Évangile de Jean, les versets 1 à 17. C'est une parabole. Et Jésus emploie une comparaison. Il dit: c'est moi qui suis la vraie vigne ou le vrai cep, et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Mais tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne. Vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Et voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. L'une des merveilles du printemps, c'est la force et le foisonnement de la vie. De partout, la vie renaît, parfois délicate, parfois pleine de force, comme un feu d'artifice aux mille fleurs. L'œil a du plaisir à ce déploiement de vie et de beauté, mais le cœur y trouve aussi un vrai ressourcement. Il y a quelque chose de profondément rassurant, de profondément bienfaisant à voir la vie se renouveler. Elle est au rendez-vous après l'hiver, elle renaît, et parfois en des endroits tellement improbables. Elle est là, elle se bat, elle triomphe. Elle est douce, elle est tendre, elle est donnée, elle est cadeau. Il nous arrive ainsi qu'au milieu de tout ce que nous pouvons traverser, un bourgeon qui renaît, une fleur qui éclot, nous apporte soudain une sorte de sérénité silencieuse, un renouvellement qui fait du bien. Notre Seigneur, le Créateur, a voulu pour nous ce langage sans parole, pour nous rappeler que nous sommes environnés de la vie qu'il crée, que nous sommes environnés de cette vie qu'il renouvelle, qu'il donne. Cette vie est plus large que notre vie, elle s'étend à toute la création. Cette vie nous précède, elle nous survivra tant que le ciel et la terre subsisteront. C'est un beau message que notre Créateur nous laisse. Un message fort, généreux, apaisant. Et Jésus a été sensible lui aussi à ce langage. Il a aimé utiliser les illustrations tirées de la nature et l'image de la vigne que nous avons lue ici et qu'il développe pour ses disciples avant de les quitter. Cette image appartient à ce registre. Elle parle de vie, elle parle de sève, elle parle de fruits. Elle s'enracine, certes, dans le terroir de l'Ancien Testament, mais Jésus la fait vivre comme la ferait vivre un viticulteur amoureux de son travail. Il le fait pour nous dire ce qu'il veut être pour nous, les ressources qu'il a pour nous. Il est question ici de cep et de sarment. Le cep, ce pied de vigne. Le cep, c'est ce bois aux formes parfois tarabiscotées, sur lequel poussent chaque année de nouveaux sarments qui portent le raisin. Le cep peut être ancien, certaines vignes ont plus d'une cinquantaine d'années. Des ceps qui ont des années et des années, mais chaque hiver, on taille assez court, ce qui permet que de nouveaux sarments poussent au printemps. Le cep, donc, et les sarments. Le lien profond qui unit le cep et les sarments vient de la sève qui circule en eux. Alors Jésus n'emploie pas le mot sève ici, mais pourtant tout dans son développement l'évoque, puisqu'il parle de cette circulation de vie qui part du cep et qui va vers le sarment pour lui permettre de porter du fruit. Quand on essaye de réfléchir à comment fonctionne cette circulation de vie dans une vigne, il faut reconnaître qu'elle se fait dans un sens bien précis. À vrai dire, elle se fait à sens unique, d'une certaine façon. La sève part du cep et se dirige vers les sarments. Et c'est ainsi, et ainsi seulement, que le sarment peut grandir et porter du fruit. Et Jésus souligne cette distinction. Il dit « C'est moi qui suis le cep, et vous les sarments. Chacun son rôle, chacun sa position. Le Seigneur est le cep, c'est lui qui donne. » Alors si nous essayons de réfléchir à cette image que Jésus emploie et à nous demander qu'est-ce qui circule entre le cep et le sarment, qu'est-ce qui circule entre Jésus et ses disciples et qui devient porteur de vie pour les disciples. Si nous essayons de regarder dans le texte et ce qu'il indique, il me semble qu'il n'y a une seule réponse que l'on peut donner. Ce qui circule, c'est l'amour. Lorsque Jésus parle de ce mouvement, il parle de l'amour. Il dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » La circulation de vie à laquelle Jésus pense en évoquant cette image, c'est d'abord l'amour qui circule, l'amour qui vient de lui et qu'il nous donne. Jésus ne nous dit pas d'abord qu'il va nous donner la puissance. Jésus ne nous dit pas non plus qu'il va forcément faire couler dans notre vie la joie. Il ne parle même pas de son pardon. Il dit « Je vous ai aimé ». Et c'est cela la sève qui donne la vie et c'est à cela que nous avons à donner de la valeur pour pouvoir véritablement être ressourcés. Je vous ai aimé. Le passé ne signifie pas que cet amour n'est pas d'avenir, mais le passé est là pour nous rappeler que cet amour s'est vraiment manifesté. En quelque sorte, c'est une invitation à nous appuyer à tout moment sur ce qui a déjà été, sur ce que cet amour a déjà manifesté. Je vous ai aimé. Il y a quelque chose, un repère qui est donné. Jésus parle dans les mêmes termes de l'amour de son Père. Il dit « Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aimé. » Cet amour du Père pour le Fils ne faiblit jamais, ni ne vacille, mais il est manifesté de mille manières. Jésus le premier s'appuie sur ce qu'il a reçu pour pouvoir continuer ensuite. Lorsque Jésus parle de l'amour qu'il donne, comme d'une sève vitale, la perspective première de Jésus n'est pas, semble-t-il, de demander l'amour en retour. Il ne dit pas « Je vous ai aimé, aimez-moi ». Il demande simplement à ses disciples qu'ils demeurent en son amour. Qu'ils demeurent en son amour parce que cet amour est leur vie, comme la sève qui monte du cep. Il apporte tout au sarment. Tous les nutriments, toutes les saveurs, toutes les ressources pour vivre d'abord, puis pour produire un fruit. Donc, Jésus ne demande pas forcément l'amour en retour ici. Par contre, Jésus exprime très clairement une attente. Que ses disciples, recevant son amour, diffusent cet amour vers d'autres. Il dit « Je vous ai aimé, demeurez dans cet amour et aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est intéressant de voir que dans cette image, Jésus veut que son amour féconde notre cœur. Ce que nous recevons de lui, il attend que cela devienne un fruit pour d'autres. Ce qui veut dire que cette image du cep et des sarments est tout sauf une image à circuit fermé, où tout se passe simplement entre le cep et sarment, et puis inversement. Elle parle d'amour qui se reçoit, mais qui se reçoit pour se transmettre. Et d'ailleurs, Jésus lui-même illustre ce mouvement en tout premier lorsqu'il dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé ». Jésus s'est nourri de l'amour de son Père, puis il a puisé dans cet amour du Père toutes les ressources et toutes les forces pour aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi ? Jusqu'au bout de l'amour pour nous. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé ». Il nous invite en quelque sorte à reprendre ce flambeau, à recevoir nous aussi l'amour qu'il nous offre, à nous en nourrir pour le faire rejaillir sur d'autres. Cette image de la vigne nous invite à recevoir pour pouvoir donner ensuite, recevoir cet amour du Christ pour pouvoir ensuite aimer, porter ce fruit d'amour. J'ai dit que le mouvement était d'une certaine façon à sens unique, ce qui veut dire que la source de notre vie avec le Christ consistera d'abord à recevoir. La source de notre vie sera d'une certaine manière d'abord de nous laisser aimer, si je peux employer cette expression, à l'image du sarment qui s'ouvre à la sève qui le fait vivre. Se laisser aimer, s'ouvrir à la sève qui nous fait vivre, c'est un programme un peu étonnant. Qu'est-ce que cela peut signifier pour nous ? Qu'est-ce que cela peut impliquer ? Il me semble que si l'on pense à cette idée de se laisser aimer avec l'image du cep et des sarments, c'est d'abord accepter de n'être que sarment. C'est-à-dire reconnaître que nous n'avons pas en nous-mêmes les ressources qui font vivre, de la vie véritable, de la vie qui compte vraiment. Nous avons besoin de recevoir ces ressources de la vie et de le recevoir comme un don d'amour de Dieu que Dieu nous fait. Jésus ici a une phrase très radicale. Il dit à ses disciples « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Dans l'image du cep et des sarments, on comprend bien que détacher un sarment de son cep et toute sa belle vitalité n'est plus. Dans l'image, on comprend très bien qu'un sarment ne peut rien faire sans rester attaché au cep. Dans le vécu, quand il s'agit pour nous, quand il s'agit de nous, nous avons un peu plus de mal à accepter cela. On voudrait tellement se croire capable d'avoir les ressources en nous-mêmes, sans dépendre de rien, ni de personne. Mais c'est oublier notre condition de créature. C'est en Dieu que nous recevons tout. Nous recevons de lui sans cesse la vie, le mouvement et l'être. Être disciple de Jésus, c'est accueillir cette réalité avec humilité, avec joie, avec confiance. C'est d'abord avoir reçu de Jésus gratuitement tout ce qui concerne la relation avec Dieu, la possibilité d'être accueilli par Dieu. Nous ne le méritons pas, nous ne pouvons que le recevoir, nous laisser aimer par le Christ qui a tout fait pour nous. Accepter son amour et son pardon en nous y ouvrant. Ce qu'il faut relever ici, c'est qu'être disciple de Jésus-Christ, accepter de n'être que sarment, n'est pas une menace pour ce que nous sommes. Le Seigneur qui nous invite à reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire, n'est pas un Dieu qui nous écrase, mais au contraire, un Dieu qui veut nous enrichir comme le cep le fait pour le sarment. Il n'est pas un Dieu qui cherche à nous asservir, mais au contraire, à nous faire vivre comme la sève fait vivre le sarment. Il n'y a pas à redouter de reconnaître notre dépendance de Dieu, notre dépendance du Christ. C'est ce qui permet de dire « J'ai soif de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur ». C'est là vraiment que nous sommes bien, que nous sommes nous-mêmes, lorsque nous sommes reliés pour recevoir du Seigneur ce qu'il a à nous donner. Nos vraies racines sont là, et être disciple, c'est le reconnaître pleinement et sereinement. Quand deux personnes sont sûres de l'amour qu'elles ont l'une pour l'autre, c'est à ce moment-là une sorte de richesse et même de fierté que de dire que l'on a besoin de l'autre. On ne se sent pas dévalué par le fait qu'on a besoin de l'autre et de le reconnaître, mais c'est au contraire l'expression du fait que l'on s'aime vraiment, que l'on s'appartient pleinement. Se laisser aimer, c'est reconnaître en toute joie, en toute confiance, que nos ressources sont dans le Seigneur, que notre terroir vital, en quelque sorte, c'est lui. Quel fruit peut en résulter pour d'autres ? Le fruit qui peut en résulter dans nos relations envers les autres, c'est peut-être d'acquérir une sorte de simplicité relationnelle qui fait que l'on peut accepter de recevoir des autres. Qu'on ne considère pas comme une insulte à notre personne que quelqu'un nous complète ou supplée à certaines de nos limites. Parce que nous avons appris à reconnaître simplement, honnêtement, simplement, honnêtement, comme ne possédant pas tout dans le Seigneur. Le premier aspect, se laisser aimer, c'est accepter avec sérénité cette situation d'être dépendant, d'avoir besoin de Dieu, mais de le faire dans la joie et la simplicité, en sachant que ce sont là nos vraies racines. Mais c'est aussi se laisser aimer comme le sarment attaché au cep. C'est aussi, me semble-t-il, se laisser nourrir, se laisser irriguer intérieurement par l'amour que le Seigneur a pour nous. L'amour que l'on reçoit de lui. Et là, je pense vraiment à la façon dont l'apôtre Jean se nomme lui-même dans son évangile, le disciple que Jésus aimait. Le disciple que Jésus aimait. Ce n'est pas du tout une expression de vantardise de la part de l'apôtre Jean, mais au contraire une sorte d'étonnement permanent. Une sorte d'étonnement permanent d'être quelqu'un que le Seigneur aime. Le Seigneur m'aime. Le disciple que Jésus, c'est ainsi que Jean pensait à lui-même. C'est seulement avec cette sorte d'étonnement, de joie, qu'il pensait à ce qu'il était et à ce qu'il était devenu grâce au Christ. Et je crois qu'il est bon pour nous aussi de cultiver ce même étonnement. Cultiver ce même étonnement en toute simplicité de cœur, le méditer, l'approfondir vraiment. C'est une autre manière d'être un sarment nourri de la sève de l'amour de Jésus. Je suis moi aussi le disciple que Jésus aime. Et quand je pense à moi, je veux penser à moi comme cela, le disciple que Jésus aime. On peut dire cela dans l'étonnement, dans la joie, dans l'émotion peut-être, dans le bouleversement, dans la confusion parfois, lorsque l'on se sent si loin de mériter cela, mais se le dire vraiment et s'en nourrir. Se laisser aimer, c'est savoir dire que cela aussi, se laisser aimer, c'est savoir dire cela aussi, nous dire cela pour nous-mêmes. Nous sommes les disciples que le Seigneur aime. Dans sa première épître, l'apôtre Jean dira : nous avons connu l'amour de Dieu et nous y avons cru. Je vous propose de méditer cette pensée. Je crois vraiment à l'amour que Dieu a pour nous lorsque j'accepte de me penser comme l'apôtre Jean, comme le disciple que Jésus aime. Un émerveillement, quelque chose qui nourrit, qui fait du bien au plus profond de soi. Alors ensuite, bien sûr, on peut aller plus loin et réfléchir aux différentes formes que prend cet amour du Seigneur pour nous, aux différents dons qu'implique cet amour. Je suis le disciple que le Seigneur aime au point qu'il m'a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et c'est un statut qui m'est donné lorsque je crois, lorsque je m'ouvre à son amour. Je suis le disciple que Jésus aime. Et le Seigneur promet, nul ne les ravira de ma main ce que j'aime. Et le Seigneur promet aussi, je leur donne la vie éternelle. Le Seigneur dit à ceux qui sont tombés, comme à la femme adultère, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Tout cela vient comme des prolongements de cette réalité unique. Nous sommes ceux que le Seigneur aime, les disciples que le Seigneur aime, si nous sommes ouverts à lui, si nous lui avons donné notre vie. Nous sommes invités vraiment à nous laisser aimer de cette façon, à recevoir tous les dons que Dieu nous fait comme simplement des signes de son amour. Tous les dons qu'il nous fait sont contenus dans cette réalité qu'est l'amour de Dieu pour nous. C'est une sève qui nous est destinée personnellement pour nous faire vivre. Se laisser aimer, c'est aussi continuer à faire vivre ces choses en nous, même face à d'autres circonstances, face à d'autres réalités. C'est pourquoi Jésus parle avec insistance de demeurer dans son amour, de demeurer dans son amour. À 10 reprises, il emploie ce verbe « demeurer ». Il y a les difficultés que nous rencontrons, il y a les obstacles, il y a les chagrins et les peines, il y a les moments où tous les vents semblent contraires. Demeurer dans l'amour que nous avons en Jésus-Christ demande alors une vraie mobilisation. Mobilisation de la volonté pour dire « Je ne veux pas oublier ton grand amour pour moi ». À ce moment-là, la parole de Jésus au passé compte « Je vous ai aimé ». Elle prend toute sa force face à un présent où peut-être nous perdons un peu nos repères. Cela nous arrive en face de l'adversité. Mobilisation de la volonté pour continuer à s'accrocher à cette réalité. Mobilisation aussi de l'intelligence, de la loyauté du cœur pour dire au Seigneur « Je ne comprends peut-être pas ce que je vis, mais je ne veux pas dire pour autant que ton amour pour moi vacille. Je ne veux pas dire pour autant qu'il y a là un oubli, qu'il y a une terrible absence. » Mobilisation encore de l'espérance pour dire comme Jérémie au cœur de ses lamentations « Je vois ma misère, je vois ma détresse, mais les compassions du Seigneur ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent encore. » Mobilisation enfin du cœur pour chercher le Seigneur, pour écouter, pour entendre encore, même au cœur de l'ouragan, la brise légère de sa présence qui réconforte. Une parole que le Seigneur peut donner comme soutien, comme une manne, comme le pain qui aide à marcher le jour qui nous est donné. Le fruit, c'est alors la consolation, le réconfort. Le fruit, c'est alors de garder le bon cap qui nous garde de glisser vers les abîmes. Le fruit, c'est de laisser à Dieu, la liberté de nous aimer encore et de nous nourrir et de nous ouvrir. Le fruit, c'est de laisser à Dieu la liberté de nous aimer encore et de nous ouvrir à ce qu'il veut nous montrer de son amour. Demeurez dans mon amour, nous dit Jésus, et dans l'adversité, il est important de le faire. Demeurez dans mon amour. Cette parole résonne aussi quand, par exemple, lorsque s'élèvent en nous, parce que nous sommes à bout, les puissances de violence, de dureté, l'envie de blesser celui ou celle qui nous aurait blessés, ou l'envie, lorsque nous sommes face à la tentation de l'intransigeance méchante parce qu'on nous a fait du mal. Il y a parfois des situations relationnelles difficiles qui créent cela en nous. Rester attaché au Seigneur, comme le sarment au cep, c'est recevoir de lui une autre sève que celle-là. C'est bagarrer avec la sève amère pour laisser place à celle qui vient du cep. C'est laisser cette sève qui vient du Christ prendre place en nous, prendre corps en nous pour avoir une réaction plus juste peut-être, plus équitable, qui laisse place à la grâce sans pour autant bafouer la justice. Comme le dit l'apôtre Paul, comme Dieu vous a fait grâce en Jésus-Christ, faites-vous grâce. C'est cela la sève nouvelle de l'amour du Christ pour nous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Demeurez dans mon amour, dit le Seigneur. C'est encore, me semble-t-il, à l'heure de l'obéissance au Seigneur et à ses commandements, ne pas sombrer dans une obéissance servile, comme une sorte de loi extérieure qui nous serait imposée. Mais au contraire, c'est considérer que c'est un privilège pour nous que dans l'obéissance à notre Seigneur, il nous ait donné une occasion de montrer par nos actes et par nos attitudes que nous aimons le Seigneur. D'avoir à son égard un langage un peu plus consistant que de simples mots. Et c'est alors trouver une joie à faire plaisir à celui qui nous a aimés. Le fruit, c'est alors une vie chrétienne plus unifiée. Une vie où on n'est pas constamment déchiré entre ce qui nous est demandé de faire et ce que l'on voudrait faire nous-mêmes. Le fruit, c'est une vie chrétienne où l'obéissance n'est pas subie, mais où elle est vécue joyeusement, dans l'amour et la confiance. Demeurons dans l'amour du Seigneur. Nourrissons-nous de cet amour comme d'une sève. Laissons-nous irriguer par lui et qu'il puisse ainsi porter du fruit en nous. Un dernier mot à propos du fruit. Jésus insiste sur le fruit à plusieurs reprises. Il est bien clair que si Jésus n'est pas là, s'il ne nous transforme pas, s'il ne nous fortifie pas par son amour, nous ne pouvons pas produire les fruits qu'il attend de nous. Pourtant, lorsque l'on parle avec autant d'insistance des fruits comme le fait Jésus, c'est aussi mettre en valeur, d'une certaine façon, les sarments. On n'a jamais vu de raisin pousser directement sur le cep. Toutes les grappes sont sur les sarments. Et il me semble que cela veut dire que le Seigneur, pour se manifester, pour manifester quelque chose de lui dans le monde, a plaisir à œuvrer en nous pour que nous portions ce qui parlera de lui. Pour que nous portions ce qui témoignera de son action. C'est aussi une manière de nous honorer que d'agir ainsi. Une manière de nous associer à ce qu'il fait, à ce qu'il veut manifester de lui. Le fruit dit aussi cela. On notera alors une particularité de vocabulaire. On parle souvent dans les autres évangiles de produire du fruit, littéralement de faire du fruit. Lorsque Jean-Baptiste interpelle les gens auxquels il s'adresse, il leur dit « Produisez un fruit digne de la repentance ». L'accent est mis sur la responsabilité de la personne. Ici, nous avons une autre expression chez Jean. Il n'est pas question de faire du fruit, non, mais il est question de porter du fruit. Le sarment est appelé à porter du fruit, non pas à produire, mais porter. Ce qui veut dire que le sarment n'est pas appelé à faire quelque chose, en quelque sorte le fruit, mais il reçoit la sève qui lui permet de le porter. Ceci dit, porter le fruit n'est pas rien. Le sarment est impliqué. Pour pouvoir porter du fruit, il doit être bien relié au cep. Il faudra aussi que le sarment soit émondé pour que la sève ne se disperse pas inutilement. Mais en même temps qu'on souligne cette importance du sarment, on rappelle qu'il n'a pas tout à produire. Il peut puiser ses ressources dans la sève qu'il reçoit et faire appel à cette sève, trouver en elle ce qu'il ne possède pas en lui-même. Et je trouve qu'il y a là un magnifique équilibre qui dit encore la relation d'amour. Notre Seigneur a choisi que le fruit qui le glorifiera soit le produit d'une communion d'amour entre lui et nous. De qui vient donc le fruit? Le cep qui l'a produit ou du sarment qui le porte? L'humble sarment dira « c'est le fruit du cep ». Et l'humble cep dira « c'est le fruit du sarment ». Je ne sais pas comment vous parler d'un fruit qui a pu éclore dans notre vie lorsque vous voyez quelque chose de l'action de Dieu en vous. Je pense que généralement, nous avons bien conscience qu'il a fallu que le Seigneur agisse en nous et nous lui sommes reconnaissants de ce qu'il a fait pour que nous puissions porter ce fruit. Et c'est une juste position. Et cette juste manière de voir les choses doit être complétée par un autre regard. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce texte, lorsque Jésus parle du fruit que porte le disciple, il ne dit jamais « mon fruit ». Il dit « votre fruit ». C'est intéressant de le noter. Autrement dit, Jésus ne zappe pas ses disciples. À la fin du passage, il dit « je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure ». Cela nous rappelle que nous demeurons entiers dans la relation, dans le vis-à-vis avec notre Dieu. C'est ainsi que le Seigneur nous veut. C'est ainsi qu'il nous aime. C'est ainsi qu'il nous donne toutes les ressources dont nous avons besoin, mais sans jamais nous rabaisser. C'est ainsi que nous pouvons puiser en lui, en toute liberté, ce dont nous avons besoin. Chercher en lui ce qui nous manque si cruellement. Et tout cela, c'est bon. C'est fort à vivre. C'est en quelque sorte comme une promesse de printemps, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Mais je le rappelle, une promesse qui n'est jamais en circuit fermé. Nous recevons, oui, mais pour transmettre, Le dernier mot de Jésus dans ce passage nous rappelle l'indispensable ouverture au fruit qui rejaillit plus loin. « Ce que je vous commande, dit-il au verset 17, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. » Jésus sait qu'un bon fruit de la vigne, un bon vin, n'est jamais aussi bon que lorsqu'il est partagé.